vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles et nous allons lire ensemble dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 10, Romains 10, et nous en lirons les versets 14 et 15. Romains 10, 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Puisse le Seigneur bénir la lecture de sa parole. Amen.
C'est vraiment une très très grande joie que de revenir dans ce lieu qui a été, Yvette l'a dit, un lieu de beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de combats. Heureux de revoir des visages amis, heureux de voir aussi de nouveaux visages. Je vois avec plaisir que vous êtes quasiment plein, ce qui veut dire que vous êtes déjà dans la perspective de naissance de nouvelles églises, en tout cas je vous le souhaite, parce que sachez que vous ne pourrez jamais accueillir plus de personnes que ne peut contenir votre salle, quels que soient tous les efforts magnifiques que vous ferez pour annoncer l'Évangile. Et si vous en avez d'efforts magnifiques que vous ferez pour annoncer l'Évangile, et si vous en avez de nouveaux, ça impliquera forcément pour certains de sortir. Il faut donc créer de nouvelles églises. Et je vous souhaite vraiment de connaître cette joie pour que dans l'avenir, eh bien, il y ait encore de nombreux lieux où le Seigneur sera exalté avec les personnes que vous aurez contactées. Alors, pourquoi Joseph? Eh bien, tout simplement parce que d'abord, c'est mon vrai prénom. Ça n'est pas un prénom que je me suis pris simplement pour le plaisir de faire comme. Mais dans ce ministère en faveur des Juifs, j'essaie de faire, et nous essayons de faire en sorte de limiter les barrières que je vais qualifier de naturelles, entre guillemets, entre le christianisme, entre le christianisme et le judaïsme. Une des barrières peut être le nom. J'ai la chance d'avoir un prénom hébraïque, donc je l'utilise dans le cadre de ce ministère, mais je n'ai pas de frère jumeau. Si j'avais eu un frère jumeau, ça m'aurait facilité, un certain nombre de relations avec des personnes en disant, écoutez, François se trouve à Limoges, en ce moment il prêche, mais c'est Joseph qui est sur Paris. Mais bon, ça n'est pas le cas. Alors merci à la communauté de Damary-l'Église pour son invitation dans le cadre particulier de ce ministère. Et aujourd'hui, donc, la prédication, comme la réflexion de cet après-midi et les échanges tourneront autour de ce ministère. Y a-t-il la nécessité d'avoir un ministère particulier en faveur des Juifs? Et si oui, pourquoi? Alors je vous invite déjà à réfléchir à vos questions. Cet après-midi, on pourra avoir un échange autant que vous voulez. Sur le sujet. C'est une sensibilisation, il est évident qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais j'aimerais vraiment pouvoir répondre au maximum aux interrogations que vous pouvez avoir sur ce ministère. Les relations entre juifs et chrétiens ont toujours été difficiles, en tout cas c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on dit généralement. Ce qui est vrai, c'est que depuis en tout cas le 4e siècle, mais plus particulièrement, à partir du 2e siècle et plus particulièrement à partir du 4e siècle, les relations ont été non pas simplement tendues, mais extrêmement opposées, violentes, destructrices. Et on va essayer de parler un petit peu de cela ce matin et cet après-midi pour essayer de comprendre pour quelles raisons cela a été et surtout ce que nous pouvons faire maintenant pour essayer de ramener au peuple juif ce qui est sa propriété, c'est-à-dire Jésus le Messie, qui est, je vous rappelle, tout d'abord le Messie des Juifs avant d'être le Christ des chrétiens. Alors, le peuple juif, ne serait-il pas celui qui a crucifié Jésus? Et si oui, n'est-il pas normal que Dieu l'ait rejeté, puisque n'ayant pas accepté celui qui était venu leur apporter le salut? Et cet après-midi, nous verrons un petit peu ce qu'il en est, en tout cas en partie. Et de ces affirmations, eh bien, souvent, nous tirons théoriquement de la Bible, nous verrons que c'est peut-être pas forcément exactement de la Bible, que Dieu aurait rejeté son peuple en faveur d'un nouveau qui est le peuple chrétien et qui par conséquent ne nous amène pas à avoir peut-être une amitié déjà prépondérante pour le peuple juif et surtout pas un ministère en sa faveur. Qu'en est-il dans la réalité? Est-il nécessaire d'apporter la bonne nouvelle de Jésus le Messie au peuple juif? Y aurait-il une raison qui nous pousserait Jésus le Messie au peuple juif? Y aurait-il une raison qui nous pousserait à le faire? Est-ce que c'est nécessaire de le faire? Et si oui, quelle est notre place en tant qu'Église adventiste dans cette mission? Alors, avant d'aller plus loin, peut-être d'une manière générale, brosser un peu le thème de l'épître, de la lettre de Paul aux Romains. On a lu tout à l'heure Romains 10, versets 14 et 15. Et dans cette lettre aux Romains, nous comprenons tout de suite que le but de Paul est de définir les fondements des relations entre les croyants d'origine juive et les croyants d'origine païenne. Il y a très tôt dans la croissance de l'Église ces groupes qui vont croître plus ou moins ensemble, et en tout cas de temps en temps avec des oppositions assez fortes. Ces oppositions qui vont amener notamment l'Église à réfléchir justement sur les fondements de l'appartenance à la foi dite chrétienne par rapport au groupe de croyants d'origine juive et par rapport au groupe de croyants d'origine païenne. Comment peut-on être sauvé? Dans le livre des Actes, au chapitre 15, vous vous souvenez qu'il y a eu ce qu'on appelait le Concile de Jérusalem, un moment où les croyants se sont rassemblés pour essayer de poser ce qui était véritablement nécessaire pour se dire quelqu'un qui suit Jésus, que l'on soit d'origine juive ou d'origine païenne. Il a fallu envoyer des délégués à Jérusalem. Il y a eu une discussion forte, une discussion extrêmement profonde. Et puis de cette discussion sont sorties un certain nombre de recommandations. Eh bien, c'est de ce sujet-là qu'ont sorti un certain nombre de recommandations. Eh bien, c'est de ce sujet-là dont il est question dans beaucoup de lettres de Paul et en particulier dans la lettre aux Romains. Et nous trouvons là, dans cette lettre, ces sujets que l'on trouve ailleurs. Ne pas se juger les uns les autres. La place de la circoncision dans le salut. L'universalité du péché tant pour les Juifs que pour les Grecs. La foi, seul instrument de salut. La grâce qui délivre du péché et de la mort. La place de la loi dans le processus du salut. La différence entre Israël et les païens. Comment réagir face à celui qui est faible dans la foi? Et tous ces thèmes-là sont lus ou expliqués en relation avec les croyants d'origine païenne et les croyants d'origine grecque, car il y a des tensions entre les deux communautés. Et on retrouve plus ou moins ces différentes questions dans toutes les lettres de Paul, parce que partout où il allait, il y avait des croyants d'origine païenne, il y avait des croyants d'origine grecque. Et le but de la lettre aux Romains est de répondre, en tout cas au moins en partie, à ces différentes questions. Et les chapitres 9 à 11 parleront spécialement des relations entre ces croyants d'origine différente. Il est intéressant de noter également que dans cette lettre, on présente l'histoire d'Israël telle qu'elle est déjà présentée avant, dans les passages qui précèdent ce chapitre 10, ou même dans le chapitre 10 également. Eh bien, on va montrer une histoire faite de fidélité et d'infidélité. Et souvent, les lecteurs de la lettre de Paul aux Romains, et notamment les lecteurs juifs, vont dire que, eh bien, il est un peu à charge, Paul. Mais finalement, quand on regarde le message de Paul, il n'est pas différent du message des prophètes. De tout temps, on sait qu'Israël est parti en déportation à cause de son infidélité. Cela est dit dans le deuxième livre de Samuel, chez Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Et ce faisant, il ne fait rien d'extraordinaire que de rappeler l'histoire d'Israël avec ses hauts et ses bas. Paul parle aussi du projet éternel de Dieu, celui d'ouvrir l'annonce de la bonne nouvelle aussi aux païens. Mais cela n'est pas une nouveauté de ce qu'on appelle le Nouveau Testament, mais cela se trouve déjà dans Ésaïe 42, Ésaïe 49, 60, Daniel 4, 6, Michée 4, enfin voilà, beaucoup de passages, ou déjà 60, Daniel 4, 6, Michée 4, enfin voilà, beaucoup de passages, ou déjà dans les Écritures hébraïques, eh bien, on a ce projet éternel de Dieu d'ouvrir le salut aux païens. Ça n'est pas non plus une nouveauté. Et c'est dans ce contexte que l'on va retirer les chapitres 9 à 11 ce que Dieu aurait dit au peuple d'Israël, soi-disant créer un peuple nouveau, celui de l'Église. Le problème de cette déclaration, c'est qu'elle ne tient pas tout à fait compte de ce qui est écrit dans le texte. Je voudrais vous inviter à prendre la lettre aux Romains, et cette fois-ci le chapitre 11 et le verset 1 et 2. Comme cela se passe souvent dans ses lettres, Paul, après avoir exprimé une idée, va revenir sur cette idée en disant « Attention, je risque d'être mal compris, donc je vais quand même vous préciser un ou deux points. » Et voilà que, auparavant, il a parlé de l'appel de Dieu pour des croyants d'une origine grecque. Et sans doute, par peur d'être mal compris, il va préciser une chose au chapitre 11, versets 1 et 2. « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Certes non, car moi aussi je suis israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. » Je m'arrête là, on reviendra un peu sur la suite un peu plus tard. À deux reprises dans ce court passage, Paul affirme donc avec force qu'il n'a pas rejeté son peuple. Et je me souviens d'une étude de la parole qu'on a eue, je crois, le troisième trimestre ou le deuxième trimestre de l'année 2010, où on étudiait la lettre aux Romains, et où le commentateur parlait du fait, eh bien, que Dieu avait rejeté son peuple. Alors, pas le commentateur du questionnaire, mais celui qui était dans mon église. Et je lui ai dit, comment peux-tu dire que Dieu a rejeté son peuple, puisque Romains 11 dit Dieu n'a pas rejeté son peuple. On était en train d'étudier Romains 11. Je dis, peut-être que ça veut dire autre chose, mais il faut pouvoir l'expliquer et ne pas dire une phrase de ce genre qui, de manière manifeste, est à l'opposé de ce que dit la parole de Dieu. Dans son raisonnement, Paul veut démontrer que si Dieu avait rejeté son peuple, lui ne serait pas là parce qu'il est israélite. De la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, pharisien, vous connaissez la longue carte de visite que l'apôtre Paul a. Et si l'on considère l'ensemble de la lettre aux Romains, on ne trouvera jamais de texte disant que Dieu a rejeté son peuple. Comme nous venons de le voir, au contraire, il dit textuellement que Dieu ne l'a pas fait. La question de la lettre aux Romains n'est d'ailleurs pas le rejet d'Israël et son remplacement par l'Église, mais les conditions de salut tant pour les croyants d'origine israélite que pour les croyants d'origine païenne. Si l'argument ne tient pas face au texte biblique que nous venons de lire, il ne tient pas non plus face à la pratique des premiers chrétiens, entre guillemets. Je vous rappelle que les premiers chrétiens étaient tous des juifs. Tous, absolument tous, étaient des juifs. Cela fait écho pour moi directement à la parole de Jésus disant « Allez premièrement vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Et on s'aperçoit que lorsqu'on lit toujours dans cette lettre aux Romains le chapitre 9 et le verset 1 à 5, Paul va dire « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur ». Et on se dit, mais quel est ce chagrin, quelle est cette tristesse? De quoi Paul est-il rempli? Ben, il l'explique. « Je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ ». Qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. Romains 10, 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Voilà ce qui fait que Paul brûle. Et on va voir tout au long de son ministère, tel qu'il nous est rapporté notamment dans le livre des Actes, c'est que partout où il ira premièrement rencontrer ses frères juifs. Il ira à la synagogue. On trouve cela dans Actes 9, 20 à Damas, 13, 5 à Salamine, 13, 14 à Antioche, 14, 1 à Iconium, 17, 1 à Thessalonique, 17, 10 à Bérée, 17, 17 à Athènes, 18, 4 à Corinthe, 18, 19 à Éphèse lors du deuxième voyage missionnaire et 19, 8 à Éphèse en nouveau lors du troisième voyage missionnaire. Je vous ai donné les références, les noms des villes pour vous montrer que ce n'est pas à une seule reprise. À chaque fois, Paul va d'abord annoncer l'évangile à ses frères juifs. Et si vous relisez, et on aura l'occasion cet après-midi d'y revenir, le livre des Actes, eh bien vous verrez que le nombre de croyants d'origine juive est loin d'être négligeable, c'est vraiment le moins que l'on puisse dire. Et en revenant à notre lettre aux Romains, eh bien nous allons souvent citer un texte par rapport à ce qu'on appelle l'évangélisation. C'est le texte qu'on a lu tout à l'heure en introduction, Romains 10, versets 14 et 15. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont envoyés selon ce qui est écrit ?» Et vous remarquez, si vous vous souvenez pour les plus anciens, que ce texte a toujours été cité dans un contexte d'évangélisation. Mais il n'a jamais été cité dans un contexte d'évangélisation en faveur des Juifs. Dans un contexte du partage de la bonne nouvelle de Jésus, le Messie, en faveur des Juifs. Mais toujours, on a dit, eh bien voilà, ce passage nous dit, il faut sortir de nos murs. Il faut aller annoncer l'Évangile à ceux qui se trouvent à l'extérieur de l'Église. Ce qui n'est pas faux. Mais si vous regardez dans le contexte, nous sommes dans les chapitres 9 à 11, qui traitent spécifiquement des liens d'Israël et du paganisme. Les deux attachés à Jésus. Et si vous regardez ce qui précède, eh bien vous verrez que dans le début du chapitre 10, Paul dira « Je veux qu'ils soient sauvés, les Juifs. Ils ont certes un zèle sans... ils ont du zèle mais sans connaissance. Mais, voilà, ce zèle est là. Et Paul va se servir de cela pour dire « Il y a la nécessité de nous tourner vers eux. » Et puis il parle des païens. Et finalement, il termine ce court passage du chapitre 10, versets 1 à 12, en disant « Il n'y a pas de différence, en effet, entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et c'est là que Paul dit « Et comment invoqueront-ils s'ils ne connaissent pas ?» Qui ? Les païens, mais aussi les juifs. Malheureusement, dans l'histoire de notre Église, nous avons favorisé les païens et nous avons oublié les juifs. Une histoire que Jacques Doucan raconte. Un jour, il se trouvait dans une réunion d'un comité sur l'évangélisation de cette fameuse fenêtre 10-40. Vous avez entendu parler de ça, ça fait belle lurette, entre le 10e et le 40e parallèle. Eh bien, il y a la grande majorité des populations du monde et cette grande majorité de populations non croyantes en Jésus. Et voilà que dans ce comité, on passe en revue toutes les populations qu'il va falloir toucher. Alors, je n'ai pas la feuille, donc je ne peux pas vous les citer tous, mais on va parler des musulmans, on va parler de ceux qui habitent en Afrique du Nord, on va parler, et on passe les hindous, et on passe, et on passe, et on passe, et puis on arrive au point. Et puis Jacques lève la main, et puis il dit, écoutez, il me semble que c'est incomplet. Alors, le frère qui a rédigé relit, et puis il dit, non, on a bien mis tous les noms. Et il dit, et pourquoi les juifs ne s'y trouvent pas ? Les Juifs seraient-elles le seul peuple de cette fenêtre 10-40 à ne pas connaître Jésus pour lequel nous n'aurions pas une mission ? Une question intéressante, me semble-t-il. Pourtant, Romains 10, versets 14 et 15, prend bien en considération et les païens et les Juifs. Alors bien sûr, il n'est pas sujet pour moi de vous dire qu'à partir de maintenant, les seules personnes vers lesquelles nous devions nous tourner, ce sont les Juifs, en oubliant tous les païens. Mais c'est de dire peut-être que s'il y en a 99 qui s'occupent des païens, on pourrait peut-être en trouver un qui s'occuperait des juifs. Peut-être pourrions-nous dire que si pendant tant d'années nous nous sommes occupés des païens, j'allais dire exclusivement, peut-être pourrions-nous prendre un peu de temps, un peu d'énergie pour nous tourner vers un peuple que Dieu n'a pas rejeté mais que nous avons la plupart du temps oublié. Paul vient de dire qu'il relève de la liberté de Dieu d'avoir choisi un peuple, Israël, et d'avoir ensuite choisi d'ouvrir l'évangile aux païens. Mais le premier peuple auquel Dieu s'adresse, le peuple qui est la prunelle de ses yeux, le peuple à qui tout a été donné, j'y reviendrai dans quelques instants et cet après-midi, c'est le peuple juif. Et nous l'avons oublié. Paul termine cela en disant « Il n'y a pas de différence en effet entre juif et grec. » Dieu ne fait pas de différence. Mais peut-être avons-nous fait, nous, une différence qu'il convient de corriger. C'est bien parce que Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il me semble nécessaire et impératif de nous dire « Ne pouvons-nous pas nous ouvrir ?» à ces personnes que nous côtoyons, que nous regardons parfois de manière un peu bizarre. Et puis nous ne savons pas trop comment faire, comment les prendre. On en parlera cet après-midi. Alors que souvent c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Comme pour les païens, la règle principale, c'est d'aimer. Le reste vient tout seul. On partagera cet après-midi avec vous un certain nombre d'expériences. Je voudrais vous citer quelques phrases. J'en ai cité une ou deux de la Bible, on y reviendra cet après-midi, puisque nous sommes entre adventistes. Je voudrais vous citer quelques phrases d'Ellen White. Bizarrement, Ellen White a écrit pas mal de choses sur la relation entre les adventistes et les juifs. Peut-être avait-elle compris que le Shabbat était un pont. Peut-être avait-elle compris que notre compréhension de ce que nous appelons l'Ancien Testament pouvait être un pont. Peut-être avait-elle compris que ce que nous disons sur le sanctuaire, pont. Peut-être avait-elle compris que ce que nous disons sur le sanctuaire pouvait être un pont. Peut-être avait-elle compris que notre approche de la nourriture au travers du Lévitique 11 pouvait être un pont. Peut-être avait-elle compris que Jésus Messie pouvait être un pont. Peut-être avait-elle compris que la manière dont nous lisons la Bible, en la prenant dans son entier, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pouvait être un pont. Peut-être que notre attachement aux prophéties, et donc aux textes de l'Ancien Testament, Ellen White avait peut-être compris que ça pouvait être un pont. Comment se fait-il que nous ayons oublié tout cela? Lors de la proclamation finale de l'Évangile, marquez, c'est intéressant parce que nous disons que nous sommes à la fin des temps. Alors si nous disons que nous sommes à la fin des temps, voilà une mission qu'elle place devant nous. Laquelle? Lors de la proclamation finale de l'Évangile, une œuvre spéciale devra être accomplie pour des catégories de personnes négligées juste là. Et très souvent dans certains livres de compilation, vous avez là un point et la petite note qui renvoie à l'endroit d'où a été tirée la citation. Mais permettez-moi de lire la phrase qu'il y a juste après le point. Vous voyez, c'est pas très loin. Dieu attend de ses messagers qu'ils portent un intérêt particulier au peuple juif dispersé dans le monde entier. C'est dans ce contexte-là qu'Ellen White dit « Une œuvre spéciale devra être accomplie dans ces temps qui sont les temps de la fin ». Dieu attend de ses messagers qu'ils portent un intérêt particulier au peuple juif dispersé dans le monde entier. Deuxième, une œuvre missionnaire vraie et sincère doit être accomplie pour les juifs. Un peu est déjà fait, mais ce n'est rien en comparaison de ce qui pourrait l'être. Nous ne prenons décidément pas en main cette œuvre comme nous le devrions. Que le peuple de Dieu prie et réfléchisse à cette question. Troisième, l'œuvre en faveur des Juifs telle qu'elle est soulignée dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, chapitre 11, C'est bien le contexte où nous nous trouvons. Ellen White lisait donc l'Épître aux Romains et le chapitre 11. Cette œuvre est une œuvre qui doit être traitée avec une sagesse particulière. C'est une œuvre qui ne doit pas être ignorée. La sagesse de Dieu doit venir sur son peuple, sur notre peuple, pardon. En toute sagesse et justice, nous devons préparer le chemin du Seigneur. Il faut donner aux Juifs des occasions nombreuses de venir à la lumière. C'est-à-dire réfléchir à des moyens pour toucher ce peuple de manière différente, comme nous le faisons pour les païens. Nous avons des plans de 5 jours, nous avons des conférences, nous avons des cours de cuisine, nous avons des séminaires différents. Réfléchissons de la même manière à la façon de toucher le peuple juif. Le moment est venu où la lumière du dernier message évangélique doit être portée aux Juifs. Le Seigneur veut que nous soutenions et encouragions des hommes qui travailleront comme il convient en faveur de ce peuple. Il doit y avoir en effet une multitude qui doit être convaincue de la vérité et qui prendra position pour Dieu. Les Juifs doivent devenir une puissance pour œuvrer en faveur des Juifs et nous verrons le salut de Dieu. Dernière pour ce matin. Quand cet évangile sera présenté aux Juifs, dans sa plénitude, un grand nombre d'entre eux recevront le Christ comme le Messie. Peu de pasteurs se sentent appelés à travailler pour le peuple juif, mais le message de miséricorde et d'espoir en Christ doit être annoncé à tous ceux qu'on a trop longtemps oubliés. Je retiens une chose de toutes ces citations. Nous disons souvent « Dieu a un peuple au-delà de ses murs ». Et aujourd'hui, pour ma présence ici, je voudrais vous dire, Dieu a un peuple nombreux parmi son peuple d'Israël. Tirons maintenant quelques conclusions de ce qui vient d'être dit. Si, comme le dit l'apôtre Paul, certains ont trébuché, Romains 11, 11, afin de permettre l'ouverture de l'évangile aux païens, cela signifie nullement que Dieu ait rejeté son peuple. Romains 11, 28, 29, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, intéressant, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Cet après-midi, je vous poserai une question. Je vous la pose maintenant, comme ça vous réfléchissez. Sur quoi ? Quelle est l'assurance sur laquelle vous fondez votre salut ? Quelle est l'assurance sur laquelle vous fondez votre salut ? Réfléchissez à ça, et puis cet après-midi, on reparlera de cela. Et vous verrez que dans le contexte, ça prend une couleur différente, prend une dimension différente. Il nous convient alors de réfléchir à la question pourquoi est-ce que le peuple juif n'a pas reçu le message de la bonne nouvelle. Est-ce que c'est le message qui est inadapté ou est-ce que ce sont les messagers qui ont été inaptes à transmettre le message ? On y reviendra aussi cet après-midi. Et puisque finalement on nous dit qu'il y a là un peuple nombreux qui attend de recevoir ce message, et comme dans une des citations que j'ai lues il y a quelques instants, nous présentons cela comme un signe de la fin des temps. Nous savons que le signe de la fin des temps, c'est l'annonce de l'évangile à toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue, sauf les Juifs, ou peut-être aussi les Juifs. Si le peuple juif et le peuple dont sont issus l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, le Messie, avouez quand même, promesses, les patriarches, le Messie, avouez quand même que ça fait, c'est pas mal quand même sur une carte de visite là aussi. Eh bien, devrait-il être le seul dont on ne se soucie pas ? Si l'on y ajoute les exhortations précises d'Ellen White, moi je suis heureux de voir enfin notre Église se soucier du peuple juif. Cet après-midi, on reviendra sur tous ces sujets. J'aurai l'occasion de développer un peu l'historique de l'opposition entre Israël et l'Église. J'aurai aussi l'occasion de nous amener à réfléchir sur ce que peut signifier un ministère en faveur des Juifs. J'aurai aussi l'occasion de partager avec vous un certain nombre d'éléments pour vous faciliter le contact avec le peuple juif. Mais vous verrez que ça n'est pas difficile du tout. Ce sont des choses que vous faites déjà par rapport aux païens. Il y aura peut-être quelques éléments plus spécifiques. Mais vous verrez, je vous assure, ça n'est vraiment pas compliqué. Aimer les gens, les accueillir, les écouter, les aider dans leurs difficultés. Tout cela, nous savons le faire. Peut-être, je ne sais pas si dans cette communauté, il y a des croyants d'origine juive. Apparemment, il n'y en a pas. Si d'ici à cet après-midi, il revient à quelqu'un l'idée que finalement, il serait d'origine juive, qu'ils viennent me voir, on a des choses à partager ensemble. Mais pour tous les autres, cet après-midi, il y a aussi beaucoup de choses à manger. Si j'ai bien compris, nous sommes un jour de jeûne aujourd'hui. Je ne voudrais jeter une pierre dans le jardin, comme je suis un invité, c'est plus facile pour les invités de jeter la pierre. Sachez que dans le judaïsme, on ne jeûne jamais le Shabbat. Absolument jamais, sauf... sauf le jour de Kippour. Si Kippour tombe un Shabbat, on jeûne même si c'est Shabbat. Mais il y a un autre jeûne qui est extrêmement important dans le judaïsme. C'est le 9 du mois de Av, juillet-août. C'est un jour particulier où le peuple juif a subi beaucoup, beaucoup, beaucoup de persécutions. Et c'est un jour de jeûne. Mais quand ce jour de jeûne arrive, le jour du Shabbat, on jeûne le dimanche. Mais on ne jeûne pas le jour du Shabbat tout simplement parce que le Shabbat est un jour de délices, un jour de joie, un jour où manger est même un commandement qui est donné. Alors je mets cela sur votre cœur, peut-être pas pour aujourd'hui, mais en tout cas peut-être pour les autres Shabbats. Mais je ne veux pas jeter la zizanie dans cette communauté que j'aime beaucoup, c'est peut-être déjà fait, désolé. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre aussi des Juifs. Peut-être terminer là-dessus. Nous avons, en tant qu'Église, un défaut parfois. La qualité du défaut, c'est de dire « Dieu nous a fait des dons ». Nous avons une connaissance particulière de la parole de Dieu et je suis fier d'être adventiste. Je suis devenu adventiste, je ne suis pas né dans l'Église. Je sais pourquoi je suis adventiste. Et je le suis en partie à cause du message. Mais ce message nous a amené parfois à regarder les autres d'un peu de haut, et notamment ces Juifs sur lesquels un voile subsiste. Oui, toute citation est fortement fortuite, hein, ça n'était pas voulu, bien sûr. Mais voilà, il y a beaucoup à apprendre du peuple juif, je vous assure. Et il y a un grand développement de notre foi adventiste à lire, à écouter, à recevoir, comme le dit l'apôtre Paul, retenir ce qui est bon. Je ne vais pas vous dire que tout ce que les Juifs disent est bon, mais vous savez, tout ce que les adventistes disent parfois n'est pas toujours très bon non plus. En étant biblique, il y a beaucoup de choses à découvrir dans le judaïsme. Cet après-midi, je voudrais partager avec vous quelques éléments. J'espère vous avoir donné envie. Si nous sommes aussi nombreux cet après-midi, c'est que j'aurai atteint mon but. Sinon, eh bien, pour les autres, il y aura peut-être un enregistrement. Oui, peut-être une petite expérience, il y en aura d'autres cet après-midi, mais j'ai coutume chaque fois que je le peux d'aller au service à la synagogue. Et notamment dans les fêtes particulières de Rosh Hashanah, le début de l'année, qui vient de se dérouler, de Kippour, qui vient aussi de se dérouler. Nous sommes en ce moment dans le temps de Soukhot, c'est aussi une fête importante. Et puis voilà que à Rosh Hashanah, c'est le début des 10 jours redoutables qui précèdent le 10 de Tishri, qui doit rappeler quelques petites choses, en tout cas à ceux qui étudient la Bible ici, c'est-à-dire à tout le monde, qui est le jour du Kippour. Et vous savez que le jour de Kippour, c'est le jour du jugement. Bien, 10 jours auparavant, Dieu nous dit qu'il va falloir réfléchir à notre vie, de telle sorte qu'on sache si nous nous sommes mis en règle avec Dieu, si nous avons demandé pardon à Dieu pour nos fautes. Et ces 10 jours commencent avec Rosh Hashanah, dans la Bible, la fête des trompettes, où on va sonner du shofar. Et puis voilà que je suis à Rosh Hashanah en train de parler avec nos amis juifs. Et en sortant, je me dirige vers la voiture et puis un de ses amis me suit, s'appelle Claude, un ancien médecin. Et il me dit « Oh, je ne viendrai pas ce soir ». Ce soir, c'était la sonnerie du chauffard, mais il habite à 50 km, il a 82 ans, je pense. Il a dit « Je ne viendrai pas ce soir, de toute façon, j'ai des péchés que Dieu ne peut pas pardonner ». Alors imaginez un pasteur bizarre comme moi qui entend ça un jour de Rosh Hashanah. Alors je lui dis « Excuse-moi Claude, mais on est à Rosh Hashanah. Dans 10 jours, il y a Kippour. Comment peux-tu dire que Dieu ne peut pas te pardonner des péchés ?» Elle me dit « Mais Dieu a réglé tout le reste, mais j'ai 2 péchés pour lesquels Dieu ne peut pas me pardonner. » Et on va rester une demi-heure à parler de la signification de Rosh Hashanah et Kippour. Tel que nous le voyons en tant qu'adventistes. Et au bout de la demi-heure, il me dit « On m'a jamais parlé de Rosh Hashanah et Kippour comme ça. » Je vais y réfléchir. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu me permets une chose? Tu sais que dans la communauté, la nôtre, on est à 50 mètres l'un de l'autre. Hein, on est la plus proche communauté chrétienne de la synagogue. Je lui dis, on prie beaucoup pour les gens. Et est-ce que tu permets que je donne ton nom à notre communauté pour qu'on prie pour toi, pour qu'Hachem puisse te donner le pardon pour ces 2 fautes? Il me dit, ok, si tu veux, il n'y a pas de problème. Ok. Sabbat suivant à l'église, je dis à la communauté, écoutez, bon, on a un nom nouveau à rajouter, Claude. Je raconte la petite histoire que je viens de vous raconter. Et on se met à prier pour Claude. Et puis voilà que le mardi soir, c'est le soir de Kippour. Et je vais à la synagogue. Et puis le lendemain, on a Kippour. Alors, je sais que les jeunes, notamment, se plaignent de la longueur des services. Et je voudrais vous parler d'un service dont se plaignent de la longueur des services. Et je voudrais vous parler d'un service de Kippour. Kippour commence le soir à 19h et se termine à peu près à 21h. Ça fait presque 3h. Mais ça n'est que le soir. Lendemain matin, 8h30 jusqu'à 9h le soir. 2 heures d'arrêt. Tout le reste, c'est le service de Kippour. Je vous assure que quand vous entendez le chauffard sonner le soir du soir de Kippour, vous vous dites que vraiment vous avez fait pénitence et que vous êtes heureux d'être libéré. Et voilà que pendant ces 2 heures d'attente, on reste tous à la synagogue parce qu'on habite tous de manière assez loin, et moi j'aime beaucoup rester là parce que c'est là où on peut discuter, eh bien je me retrouve avec mes quelques collègues très sympathiques, ashkénazes, avec lequel on a vraiment lié d'amitié, et puis mon Claude, qui est aussi un ashkénaze, et puis on parle de beaucoup de sujets, et puis à un moment donné, où on est un petit peu tranquille, je lui dis, on a commencé à prier. Alors, il me dit, c'est bien. Il dit, je voudrais te dire quelque chose. Depuis la semaine dernière, je n'ai pas encore la certitude que Dieu m'a pardonné, mais je suis en paix. Alors si vous voulez prier pour Claude, j'aimerais qu'un jour il puisse dire, eh bien Dieu m'a pardonné. Vous savez, à quoi ça sert d'aller dans une synagogue? À quoi cela sert-il de rencontrer des gens? Eh bien c'est à faire